Bonjour madame, monsieur, merci de choisir VOA Afrique pour vous informer. Nanit Talani à ce micro depuis Washington, la capitale américaine. À la une de l'actualité en ce jeudi 17 octobre 2024, au Mozambique, les forces de sécurité dispersent des partisans de l'opposition. Joe Biden reprogramme sa première visite en Afrique subsaharienne pour décembre en Angola. Au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne fait 147 morts. Congo-Brazzaville, les ministres interdits de voyager jusqu'à fin 2024 en raison de restrictions budgétaires. En magazine, les Burundais en colère face à une augmentation de 130% du prix du sucre.
Comment la Sosumo peut-elle augmenter le prix du sucre à plus de 130% alors que nos salaires n'ont pas augmenté depuis plus de 10
ans? Page sportive, l'Allemand Thomas Tuchel nommé nouveau sélectionneur de l'Angleterre. Ce sera juste après l'économie, mais d'abord le journal. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a déclaré hier que la relation entre la Côte d'Ivoire et les régimes militaires de l'Alliance des États du Sahel va s'améliorer s'il revient au pouvoir. Monsieur Gbagbo a déclaré porter un bon regard sur ces militaires arrivés au pouvoir par leurs propres moyens au Mali, au Burkina Faso et au Niger et qu'ils considèrent comme des États tout simplement. Il l'a dit dans une interview sur Afomédia, le site de l'ancien journaliste de RFI Alain Foucault. Par ailleurs, Laurent Gbagbo a accusé la CEDEAO de passivité face aux rébellions qui endeuillent les pays du Sahel et d'inaction face aux crises ivoiriennes passées. Au Mali, le chef de l'État Assimi Goïta et cinq des principales figures du régime militaire ont été élevés hier du rang de colonel à celui de général lors du Conseil des ministres. Assimi Goïta, investi chef de l'État en 2021, est fait général à titre exceptionnel, dit le communiqué du Conseil des ministres. Les colonels Sadio Camara, ministre de la Défense, Malik Diaw, président d'une assemblée tenant lieu d'organes législatifs, Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, et Modibo Koné, chef du renseignement, ont été promus généraux de corps d'armée. Le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, devient général de division. Au Nigeria, l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du pays a fait près de 150 morts. Une foule s'est précipitée pour récupérer le carburant déversé, puis le drame est survenu. Les détails avec Dili Diko.
L'Agence nationale d'urgence a fait état de 147 morts. Le président du gouvernement local, Ambali Zarga, a déclaré que ce chiffre ne tenait compte que des corps enterrés dans une fosse commune et que le bilan pourrait s'alourdir. Selon lui, des dizaines de victimes ont été brûlées vives au point d'être méconnaissables. Il a ajouté que d'autres corps ont été enterrés ailleurs et environ 140 blessés sont soignés dans des hôpitaux voisins. Le camion-citerne a viré pour éviter un autre véhicule et s'est écrasé mardi soir dans la ville de Majia, dans l'état de Jigawa, dans le nord du pays. Après l'accident, les habitants se sont précipités pour récupérer le carburant. Le porte-parole de la police, Lawan Chissou Adam, a déclaré que la foule a submergé les policiers qui tentaient de les arrêter. Depuis que le président Bola Ahmed Tinubu a supprimé les subventions sur le carburant l'année dernière, le prix de l'essence a été multiplié par 5 et les pénuries sont toujours fréquentes chez le premier producteur de pétrole du continent.
Le panafricaniste béninois Kémi Séba est en garde en vue dans les geôles de la Direction générale de la Sécurité intérieure en France. Selon son avocat, il est soupçonné d'entretenir des relations avec une puissance étrangère. Le point avec Mouamadou Oumfa.
Une enquête vise Kémi Séba, 42 ans, soupçonné d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France, une infraction criminelle passible de 30 ans d'emprisonnement, a précisé maître Juan Branco lors d'une conférence de presse. Déchu de la nationalité française en juillet, il est également soupçonné d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, une infraction passible de 10 ans de prison. Les enquêteurs l'interrogent sur une large période de faits à partir de 2017 selon son conseil. Monsieur Seba, de passage à Paris avec un passeport diplomatique du Niger pour visiter son père malade, a été interpellé lundi dans la rue, a détaillé Maître Branco. Kemi Seba a été insulté, projeté contre une vitre de façon violente par une dizaine de personnes cagoulées de la Direction générale de la sécurité intérieure, s'est indigné son avocat, précisant toutefois que la garde à vue, qui peut durer jusqu'à 96 heures, se déroulait sans violence. Sollicité depuis mardi, le parquet de Paris n'a pas répondu.
Les ministres et autres fonctionnaires du Congo-Brazzaville ne pourront plus voyager à l'étranger jusqu'à la fin de l'année à cause de restrictions budgétaires, a annoncé hier le gouvernement. Claire Morin-Gibourg nous en dit plus.
La circulaire signée par le Premier ministre Anatole Kolinet-Makosso précise que désormais, les missions à l'étranger des membres du gouvernement, des hauts fonctionnaires et autres agents de l'État, financés par le budget de l'État, sont suspendues jusqu'à la fin de l'année 2024. Seule exception, les missions impliquant le président de la République, précise le texte, qui stipule que pour toutes les autres, les participations en visioconférence seront privilégiées. Cette mesure vise à réduire, je cite, le train de vie de l'État qui connaît de grandes tensions de trésorerie, selon un membre du gouvernement qui a ajouté que des pans entiers de l'économie congolaise sont au rouge. Depuis un mois, les ordures s'accumulent dans les rues de Brazzaville en raison de la grève des employés de la société de ramassage qui n'ont pas reçu leur salaire. Aussi, les enseignants de l'université Marianne Gwabi sont en grève depuis le 14 octobre à cause de plusieurs mois d'arriérés de salaire.
Au Kenya, les sénateurs se prononcent aujourd'hui sur la destitution du vice-président Rigathi Gachagua, accusé notamment de corruption dans le cadre de cette procédure inédite qui tient le pays en haleine. L'Assemblée nationale a approuvé à une écrasante majorité la semaine dernière une motion de destitution contre le vice-président en conflit ouvert avec le chef de l'État, William Ruto, depuis plusieurs mois. Au Mozambique, les forces de sécurité ont ouvert le feu hier à Nampula pour disperser des centaines de partisans de l'opposant Venancio Mondlane une semaine après des élections au décompte encore partiel, d'après des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ainsi que le candidat. Trois jeunes ont été blessés par des balles réelles, l'un d'eux est dans un état grave car il a été touché aux deux jambes, affirme Venancio Mondlane dans une vidéo diffusée la nuit sur les réseaux sociaux. La police n'a pas confirmé que des personnes ont été blessées.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden se rendra en Angola en décembre prochain, selon la Maison-Blanche, reprogrammant ainsi sa visite initialement prévue début octobre et qu'il avait annulée en raison de l'ouragan Milton. Le point avec Jacques Aristide.
Le voyage du président Biden aura lieu un mois après l'élection présidentielle américaine de novembre. Il avait promis l'année dernière de se rendre sur le continent africain où se joue une lutte d'influence entre les géants chinois, russes et américains. Il s'agira du premier déplacement de Joe Biden en Afrique subsaharienne. Il interviendra la première semaine de décembre, d'après l'exécutif américain. L'Angola abrite l'un des plus importants investissements américains dans des infrastructures sur le continent, une voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo et la construction d'un embranchement vers la Zambie. En recevant en décembre dernier son homologue angolais João Lourenço à la Maison-Blanche, Joe Biden avait qualifié ce projet, également soutenu par l'Union européenne, de plus important investissement américain de tous les temps dans le rail africain. Il entre dans le cadre de l'affrontement géopolitique opposant en Afrique Washington et ses alliés à Pékin, qui détient entre autres investissements des mines en RDC et en Zambie.
L'armée israélienne a mené hier des dizaines de frappes aériennes au Liban, tuant 16 personnes dans une ville du sud du pays, dans le maire, et 3 dans une autre, et provoquant d'importantes destructions près d'un mois après le début d'une guerre ouverte contre le Hezbollah libanais. jusqu'à 40% des financements verts annoncés par la Banque mondiale au cours des 7 dernières années sont introuvables et il n'est pas certain qu'ils aient été utilisés pour des projets environnementaux, indique un rapport publié par Oxfam. La Corée du Nord affirme que sa constitution considère désormais la Corée du Sud comme un État hostile. Voilà pour les nouvelles. Vous suivez le journal sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, bienvenue dans notre segment économique avec Eric Manirakiza.
Le gouvernement éthiopien a annoncé une première vente d'actions de son opérateur de télécommunications historique, Ethio Telecom, se félicitant d'une étape significative pour moderniser une économie très étatisée. La société publique vieille de 130 ans propose 10% de ses actions en public, jetant ainsi les bases du marché boursier éthiopien, a déclaré sur X le Premier ministre Abiy Ahmed, saluant une étape significative. Une expédition de 4 petites voitures électriques du constructeur français Citroën, indépendante de la marque au chevron, est partie mercredi de Paris pour traverser l'Afrique du Maroc à l'Afrique du Sud. Ces voitures sans permis prévoient de parcourir 14 000 km de route et de pistes le long de la côte ouest via le Sénégal, le Congo ou l'Angola. L'arrivée est prévue mi-janvier au Cap en Afrique du Sud. Les cours du pétrole sont revenus mardi à leur niveau d'avant l'attaque iranienne de missiles sur Israël, le marché ne croyant plus à une escalade majeure entre les deux pays. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a lâché 4,14% pour clôturer à $74,25. Le West Texas Intermediate américain, avec échéance en novembre, a lui abandonné 4,40% à $70,58.
Voilà pour les nouvelles économiques. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité sportive avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Paul Pogba est disposé à renoncer à de l'argent pour rester à la Juventus.
Paul Pogba, dont la suspension pour dopage a été réduite de 4 ans à 18 mois et prendra fin en mars 2025, veut reprendre sa carrière à la Juventus au Turin, quitte à renoncer à de l'argent. C'est ce qu'il a expliqué à la Gazzetta dello Sport. La réalité est que je suis un joueur de la Juve et je me prépare pour jouer avec la Juve, a poursuivi le champion du monde en 2018 de 31 ans, dont le contrat avec le club turinois expire en juin 2026 et lui assure un salaire annuel de 8 millions d'euros. Durant sa suspension, il touche le minimum prévu dans la convention collective de la Serie A, à savoir un peu plus de 2 000 euros par mois. L'entraîneur de la Juve, Thiago Motta, avait parlé de Pogba au passé. Il a été un grand joueur, il n'a pas joué depuis longtemps, avait-il affirmé.
En Europe, à la tête des Free Lions, Thomas Tuchel vise le Mondial 2026.
L'Angleterre a confié les clés de son équipe nationale au technicien allemand, troisième sélectionneur étranger de l'histoire des Three Lions. Thomas Tuchel est désormais chargé de faire d'un groupe anglais talentueux mais jamais titré, une machine à gagner bien huilée. L'Allemand de 51 ans succède à Gareth Southgate, parti en juillet après un règne de 8 années, de 2016 à 2024, ponctué par 2 finales successives perdues à l'Euro. Sa première conférence de presse se fait à Wembley, un symbole pour lui.
I'm of course obviously very excited.
Je suis évidemment très enthousiaste et honoré d'être ici aujourd'hui en tant que nouveau sélectionneur de l'Angleterre. J'ai eu l'occasion de lire une citation de Pelé dans le bâtiment de Wembley qui disait que Wembley est le cœur, la capitale et la cathédrale du football. Et je pense qu'il avait tout à fait raison.
D'une durée de 18 mois, le contrat de Thomas Tuchel va débuter le 1er janvier 2025. Sa mission est, on ne peut plus clair, dépoussiérer l'armoire à trophées des Three Lions, désespérément vide depuis le Mondial 1966 à domicile. Pour y parvenir, il y aura la Coupe du Monde 2026 d'abord, organisée au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Et s'il est prolongé, l'Euro co-organisé par l'Angleterre en 2028.
Je suis très heureux de commencer ce voyage en janvier avec vous, avec le personnel de St George Park et de Wembley, et bien sûr avec un groupe de joueurs très spécial et passionnant pour faire de notre rêve une réalité en Amérique.
Thomas Tuchel, nouveau sélectionneur de l'Angleterre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. Voici nos dossiers du jour. Au Mali, après plusieurs mois de léthargie due aux sanctions des autorités concernant leurs activités, plusieurs partis et mouvements politiques viennent de se retrouver au sein d'un forum avec pour objectif de prendre la parole, d'être une force de proposition et surtout d'aider à trouver des solutions aux préoccupations des Maliens. Voici le reportage de notre correspondant Mohamed Danioko.
Trois mois après la levée de la suspension sur les activités des partis et mouvements politiques, plusieurs acteurs politiques maliens de premier rang viennent de signer un document pour s'engager au sein d'un forum avec pour objectif de contribuer au débat public et d'être une force de proposition. Nuhum Togo, président de l'Union pour la sauvegarde de la République.
Dans le monde, c'est les partis politiques qui sont là pour décider l'avenir de la nation. Que ce soit aux États-Unis, en France, partout dans le monde. Aujourd'hui, éliminer, tenter d'éliminer les partis politiques n'est pas la solution. 65 ans de gestion, 34 ans ont été gérés par les militaires, 31 ans ont été gérés par les hommes politiques. Mais faire croire à l'opinion nationale que les hommes politiques ne sont pas bons, c'est un faux débat.
En plus de contribuer au débat public, il s'agit aussi, à travers ce forum mis en place sur initiative du comité de suivi des réformes, pour les plus de 60 partis de travailler à accorder les violons pour éviter d'aller en rang dispersé et se voir imposer des décisions. Boubacar Bokoum, président du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté.
On a constaté qu'il y a une certaine cacophonie parce que la pléthore de partis politiques fait que voilà, les gens parlent dans tous les sens et on ne se comprend pas trop. Donc aujourd'hui, avoir un forum pour avoir une convergence de vues et raffermer la volonté collective pour permettre d'aller à des lendemains meilleurs, voilà l'objet fondamental de ce forum. Donc je pense qu'aujourd'hui, réunir la classe politique pour qu'aujourd'hui on parle de la même voix, qu'on ait la même compréhension des textes, qu'on ait une même lecture, permet de mieux défendre l'objet politique.
Ce forum est mis en place alors que, depuis plus de 4 mois, 11 acteurs politiques sont en prison. Occasion donc de lancer un appel pour leur libération afin qu'ils contribuent eux aussi au dynamisme de la vie politique malienne. Djigba Keïta, secrétaire général du Parrainat.
J'ai une passée intime envers ces 11 chefs de famille abusivement arrêtés, arbitrairement arrêtés, pour des propos qui n'en valaient pas la peine, pour des actes qui n'en valaient pas la peine de privation de liberté. Parce que le principe doit toujours être la liberté et la prison l'exception. Des gens qui ont une représentation sans phare, qui n'ont aucun problème avec la justice, qui peuvent être à n'importe quelle convocation, on pourrait ne pas les priver de la liberté.
Ce forum entend contribuer à libérer la parole politique afin qu'elle puisse contribuer à la bonne marche de la transition en lui apportant son expérience et son expertise. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Au Cameroun, les consommateurs et les autorités remettent en question la qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile. Ces derniers jours, des désagréments affectent sévèrement le quotidien des consommateurs. Face à cette situation, le gouvernement vient d'imposer un train de mesures aux trois opérateurs de téléphonie mobile du pays de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntape.
Franck Chuta est un jeune Camerounais de la diaspora et séjourne actuellement dans son pays natal. Rendu dans son village, il a vécu une expérience malheureuse sur l'accès au réseau téléphonique dans la région de l'Ouest.
J'ai par exemple une puce Blue. Enfin, je me rends à l'Ouest dans ma région d'origine, à 10 km de Bangandé. Mon village qui est Bangwa, c'est déplorable que je n'ai pas le réseau. L'offre internet, elle est d'une lenteur. À peine même tu retrouves une véritable information.
Dans les grandes agglomérations comme Yaoundé, la situation n'est guère reluisante. Catherine Ada est abonnée aux deux opérateurs téléphoniques mobiles du pays.
La couverture du réseau est très limitée. Pourquoi ? Parce que étant en ville sur place, on n'arrive pas à joindre quelqu'un qui est à côté. Ça déjà c'est un souci. D'un autre côté, on a les mégas qui disparaissent dans les téléphones. On ne sait pas où est-ce que ça va. Lorsqu'on réclame, bon, on nous revient sans nous retourner ce qui nous a été pris.
Suzanne Mungu Awono est une jeune. Elle souscrit généralement au forfait de connexion Internet mensuel, mais sans grande satisfaction.
Quand je mets le forfait Orange Plus, là, je crois que c'est ça. On dit un mois. Je ne sais pas si c'est peut-être en fonction de la façon d'utiliser le crédit. Quand on dit un mois, on se retrouve en train de faire peut-être 5 jours. Ça n'atteint même pas 2 semaines. Ça perd le réseau de temps en temps. Donc on peut faire toute une journée. Le réseau ne passe presque pas.
Les opérateurs de téléphonie mobile du Cameroun, Camtel, MTN et Orange, annoncent pourtant avoir investi l'an dernier 156 milliards de francs CFA pour étendre la couverture et améliorer la qualité de leurs services. La ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Likeng, qui a récemment inspecté leurs installations techniques, met un bémol.
Ils ont très peu investi sur les infrastructures d'accès, ce qui crée les saturations, les engorgements du réseau. Pour ce qui est de Camtel, l'opérateur historique est investi de la protection de notre souveraineté numérique. C'est la raison pour laquelle il y a ce monopole sur le segment transport. Mais bien sûr, nous l'avons constaté que la gestion de ce segment transport est loin d'atteindre les critères de performance attendus.
Le gouvernement a fixé un délai de 2 mois aux 3 opérateurs pour rectifier le tir. Mais la plateforme des associations des consommateurs, PAES, ne s'attend pas à un changement notoire, d'après son coordonnateur général, Georges Ngono Edouard.
Nous pensons que c'est du bluff. Ce secteur prometteur a échoué au Cameroun. Et je pense que au Cameroun, ces opérateurs de téléphonie mobile sont des mastodontes. Donc, ils n'ont peur de personne. Ils font comme ils veulent. Tant que nous ne sommes pas approchés sur la table, nous pensons que c'est du bluff qui a été fait.
Le Cameroun enregistre plus de 24 millions d'abonnés au réseau téléphonique. Les opérateurs revendiquent 95% de couverture réseau pour un chiffre d'affaires de plus de 584 milliards de francs CFA en 2022, d'après l'Agence de régulation des télécommunications. Emmanuel Jumtap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Burundi, le prix d'un kilogramme de sucre vient de passer de 3200 à 8000 francs burundais, soit une augmentation de plus de 130% en un mois. Les consommateurs crient au scandale au moment où la dévaluation de la monnaie est de plus de 300% en une année. Les autorités indiquent que cette mesure est conforme au prix national et international. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Kourounziza.
Il y a plus d'un mois, des longues files d'attente s'observaient devant les boutiques dans le quartier de Nyakabiga, vers l'est de la capitale économique Bujumbura. Il était difficile de trouver un kilogramme de sucre qui s'achetait à 3300 francs bou. Mais depuis que la seule société sucrière au Burundi a augmenté le prix du kilo à 8000 francs, les clients se raréfient. Nombreux sont les habitants qui condamnent cette hausse. Cette mère de 4 enfants ne comprend pas surtout que le pouvoir d'achat a sensiblement augmenté depuis plusieurs mois.
La situation est très grave. Par exemple, mes enfants ne prennent plus de petit déjeuner. Ils vont à l'école à jeun. Maintenant, je ne suis pas capable d'offrir à mes enfants de 3 repas journaliers car je touche moins de 50 dollars par mois. C'est pas possible.
Beaucoup de Burundais demandent aux autorités de la Sosoumo d'annuler cette décision. Ce père de famille s'insurge contre cette mesure. Il demande aux dirigeants de la société sucrière de Mosso de revoir leur décision.
Comment la Sosoumo peut-elle augmenter le prix du sucre à plus de 130% alors que nos salaires n'ont pas augmenté depuis plus de 10 ans? C'est incompréhensible.
Pour l'administrateur directeur général de la Sosoumo, Aloïs Ndeikengurukiye, la raison principale de cette hausse réside dans l'augmentation des prix des produits et des matériaux sur le marché international. Mais pour le président burundais Evariste Ndayishimiye, les dirigeants de la société sucrière de Mosso au sud du Burundi veulent uniquement s'enrichir alors que la population souffre. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Ici. Ici, aux États-Unis, tous les regards sont tournés vers les 7 battleground states ou états pivots qui devraient déterminer l'issue de l'élection présidentielle du mois prochain. Si certains d'entre eux ont connu des changements politiques au fil des ans, le Nevada, état de l'Ouest, ne penche pas pour l'un ou l'autre des grands partis. Dora Mekouar de la VOA nous en parle depuis Las Vegas. Le récit est de Lionel Gaïma.
Le Nevada compte quelque 3,1 millions d'habitants et est probablement plus connu pour Las Vegas, sa ville la plus célèbre, également connue sous le nom de Sin City. Tom Raleigh est professeur et expert en démocratie et citoyenneté à l'Arizona State University.
C'est paradoxal, je veux dire qu'ils sont considérés comme un État libéral dans un certain sens parce que c'est le premier État qui a vraiment encouragé le divorce sans faute. Il y a des jeux d'argent dans certains comtés, la prostitution y est autorisée, mais il y a aussi ce courant sous-jacent d'être très très conservateur à certains égards.
Le Nevada a voté républicain de la fin des années 1960 jusqu'au début des années 2000. Depuis, l'État oscille régulièrement entre les deux grands partis politiques. La population du Nevada a plus que triplé depuis 1980. De nombreux nouveaux arrivants sont originaires de la Californie, majoritairement libérale. Ken Miller est professeur de sciences politiques à l'Université du Nevada à Las Vegas.
Ce qui s'est passé, c'est que le comté de Clark, où se trouve Las Vegas, représente aujourd'hui 72% de la population votante de cet État. Ce qui est arrivé au Nevada, c'est que ce qui était un État rural des montagnes de l'Ouest est devenu un État urbain de la côte Ouest.
David Cardenas, étudiant du Nevada, a remarqué la division politique de l'État.
Il y a Vegas et le reste du Nevada. D'après ce que je sais, Vegas a tendance à être plus démocrate, alors que le reste du Nevada est plus républicain. Mais encore une fois, la majorité de la population se trouve à Vegas.
Malgré l'explosion démographique, le Nevada reste une région fortement ouvrière, où de nombreux habitants occupent des emplois manuels. Voici ce que dit Miller de l'Université du Nevada, Las Vegas.
Des choses comme les salaires, le chômage, l'accessibilité au logement, l'inflation en général, des choses comme le prix des carburants, toutes ces choses affectent les gens un peu plus ici au Nevada que dans d'autres États.
Les étudiants de l'Université du Nevada à Las Vegas ont exposé leurs principales préoccupations. Certains voteront pour la première fois, maintenant qu'ils ont atteint l'âge de 18 ans. Samantha Adam, résidente du Nevada.
Certainement l'avortement, certainement l'économie, quoi d'autre? L'éducation aussi.
Education as well.
David Cardenas, résident du Nevada.
The state of economy, l'état de l'économie, probablement juste la frontière.
Charles Davis, habitant du Nevada.
Je suis un étudiant fauché. J'aimerais juste pouvoir mieux me nourrir. J'aimerais avoir un seul emploi qui paye suffisamment pour me permettre de subvenir à tous mes besoins.
Lors des élections générales de novembre, les habitants du Nevada vont se prononcer aussi sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Rebecca Gill est directrice de l'Institut de recherche sur les femmes du Nevada.
La question dans son ensemble a été un moteur important, un facteur de motivation pour la participation aux élections précédentes. Et je pense que celle-ci ne sera pas différente.
Néanmoins, M. Miller estime que personne ne devrait sous-estimer les chances de l'ancien président Donald Trump de remporter le Nevada.
Je pense que Trump est perçu comme un candidat peu susceptible de gagner le Nevada simplement parce qu'il n'a pas gagné les deux dernières fois. Je ne négligerai pas l'importance des questions économiques dans la décision des électeurs de cet État.
Le rôle critique du Nevada en tant que champ de bataille est la raison pour laquelle les deux candidats Donald Trump et Kamala Harris ont décidé de ratisser le Nevada.
C'est la fin de cette session du Monde aujourd'hui, présentée par Nanit Talani. À la mise en onde, Firmin Max Koyawida. À la technique, Calvin Fowler. Merci de votre écoute. Restez avec nous pour des reportages et des analyses approfondies tout au long de la journée. Pour plus de détails et de nouvelles en continu, visitez notre site web à voaafrique.com et nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X. Excellente journée.